Bienvenue dans l'entreprise de nouvelle génération, le podcast du futur du travail en entreprise qui vous est proposé par Hola Spirit. Avec vous, nous allons découvrir ceux qui pratiquent déjà dans leurs entreprises pionnières ce futur du travail, ceux qui expérimentent de nouvelles gouvernances et explorent l'innovation managériale. Ils vont nous raconter leurs démarches, leurs succès et leurs échecs, les questions qu'ils se posent. Et la règle est claire, pas de langue de bois et une totale indépendance de ton. Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès France du ministère de l'Économie et des Finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont déjà disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, Hola Spirit, Manpower, Octotechnologie et la Maïf. Des trophées auxquels vous pouvez postuler vous aussi si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés Luc Breton, organisateur de l'événement avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc.
Bonjour Emmanuel.
François Terrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge de la Karma de GRDF, nom de son karma, enfin quoique peut-être. Il s'agit de la cellule action rapide en méthode agile. François Terrier, ravi de vous accueillir dans ce podcast.
Merci. Alors François Terrier, la première question qui coule de source, que fait une cellule d'action rapide en méthode agile? Et si j'ai bien compris, vous dépendez de la DSI de GRDF.
Oui, tout à fait. On est une cellule intégrée au sein de la DSI, donc on n'est pas toute la DSI, on est vraiment une équipe au sein de la DSI. Donc la Karma, c'est la cellule agile, la cellule d'action rapide en méthode agile, et on développe des applications web et mobile en méthode agile, avec un framework technique assez classique autour de PHP, MySQL et LAMP en général.
Ok. Et... Oui, pardon. En termes de méthode?
Donc en termes de méthode, la cellule a été créée en 2012 et c'était une des premières cellules agiles au sein de GRDF. Et c'est vraiment l'ADN de la cellule, de faire de l'agile que de l'agile. Donc on utilise essentiellement Scrum pour tout ce qui est build et Kanban plutôt pour les applications en run. Certaines équipes plutôt matures, assez matures, font aussi du Scrumban.
Ok, donc si je ne me trompe pas, les débuts n'ont pas forcément été hyper simples. Vous avez dû vous adapter à...
Alors, les débuts étaient assez compliqués, je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment une expérimentation en 2012. Donc, c'est vraiment une cellule qui a commencé avec 5 personnes, vraiment tout petit effectif. Et puis, petit à petit, a grossi. En fonction de la réussite de cette expérimentation, on a fait d'abord des tout petits projets, après des projets d'une taille un peu plus conséquente, et puis après des vrais projets d'une taille beaucoup plus grosse, avec des équipes de 6-8 personnes. Et très rapidement, au bout de 3 ans, la cellule comptait une centaine de personnes. Aujourd'hui, on a développé à peu près 70 produits, et on en maintient une soixantaine.
Donc vous avez eu beaucoup de succès en fait parce que vous arriviez à livrer un certain nombre de choses dans des délais et avec un niveau de qualité assez fort. Vous avez grossi très vite et le framework, la méthode a permis de soutenir cette croissance sans problème.
Bah, du coup ça fait 7 ans qu'on existe, on a commencé à une 5 personnes et puis on est arrivé rapidement à 100, donc constamment on a été obligé de réinventer un modèle d'organisation. On ne s'organise pas à 5 comme à 50 comme à 100. Ces problèmes d'organisation, au tout début, on ne les avait pas, puisque c'était vraiment des petites équipes, petits projets. On a commencé à avoir des questionnements et à devoir réfléchir sur notre organisation quand on arrivait à une taille d'une trentaine, quarantaine de personnes. Et puis, classiquement, comme beaucoup de cellules ou plateaux agiles, on a plutôt utilisé le modèle Spotify, assez classique. Par contre, à un moment de notre histoire, quand on a pratiquement doublé notre taille en un an et demi, on est passé d'une trentaine de personnes, quarantaine de personnes à 90-100, parce que c'est à ce moment-là où on nous a confié des projets stratégiques d'une taille très importante, plusieurs en même temps, et c'est là où la taille de la cellule a explosé. Et là, du coup, le modèle Spotify était plus forcément adapté non plus à ce qu'on voulait faire.
Alors donc, c'est intéressant de... Oui, pardon.
Allez-y. Et donc, en cherchant d'autres choses, on s'est intéressé à l'holacratie et on a basculé, on a fait quelques expérimentations en 2016, 2015 et on a basculé entièrement en 2016.
D'accord. Et c'est intéressant que vous parliez de projets stratégiques puisqu'on comprend bien que vous étiez une cellule agile très efficace à délivrer des petits projets, puis petit à petit on vous a confié des projets plus complexes, plus stratégiques, donc au cœur même de la stratégie de GRDF. On entend souvent que l'agilité ne peut pas aborder des sujets d'une complexité trop importante, qu'elle peut fonctionner sur des sujets qui ne nécessitent pas une grande sûreté au sens étymologique du terme. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
C'est quelque chose que nous aussi on a entendu, y compris au sein de la DSI. L'agile, c'est bien, c'est pour faire des petits projets, et puis quand ça devient un peu gros, un peu important, un peu stratégique, il faut laisser faire les grandes personnes, et puis on va faire du cycle en V. Nous, on a beaucoup réfléchi, parce qu'en plus on nous disait, oui, si vous voulez faire de l'agile, si vous voulez avoir comme ça un petit peu innovant, aussi bien sur les technos que sur l'organisation, avoir ce mode un petit peu start-up, etc., vous devez être à côté de la DSI et accepter de faire des petits projets qui sont pas très intégrés ou pas très stratégiques. Si vous voulez au contraire faire des gros projets stratégiques avec beaucoup, beaucoup d'ambition et beaucoup d'intérêt, enfin de pression aussi, enfin de très visible, là il faut que vous soyez quelque chose de beaucoup plus intégré à la DSI et que plus une tête qui dépasse. Et donc nous on a beaucoup réfléchi et en fait on a dit que pas forcément que la Kerma était légitime à adresser les projets de GRDF, pas tous parce que on n'est pas non plus on n'a pas vocation à faire tous les projets, mais en tout cas à faire les projets quelle que soit leur taille. D'une part parce que l'agilité n'a de sens et ne produit le maximum de valeur que quand c'est très gros, que quand c'est très complexe. Finalement, on s'aperçoit qu'un petit sujet, qu'il soit traité en cycle en V ou en agile, les chances de succès sont les mêmes. Si on fait du cycle en V pour un petit projet, le petit projet il va être facile à décrire, donc facile à écrire, rapide à réaliser, il y aura peu d'aléas. C'est vraiment quand on se lance dans un développement d'un produit sur un an, deux ans, trois ans, où il va y avoir des changements, du réglementaire qui va arriver, qu'il va falloir gérer, des situations qui vont évoluer, etc. Donc nous, on pense vraiment que la taille du projet ne fait pas le fait que ce soit agile ou pas. Après, on peut venir chercher, travailler avec la Kerma pour différentes raisons. Justement, si c'est un petit projet, on va pouvoir chercher la Kerma, entre guillemets, parce qu'on va chercher un time to market très réduit, parce qu'on a des équipes de développeurs qui sont déjà là, parce qu'on va chercher à innover, technologiquement notamment, donc on ne va pas chercher, on ne peut pas non plus avoir se lancer dans un trop grand risque avec un projet stratégique. Et puis les gros projets, on va les confier à la Kerma plutôt pour une optique d'agilité et aussi de maîtrise interne, puisqu'on a des... sur les 100 personnes, on n'a pas 100 salariés de GRDF, mais on a quand même une vingtaine de développeurs internes. Et donc là, on va capitaliser et on va internaliser vraiment les choix qui vont être portés, incarnés par des internes.
Alors ce que vous avez dit qui m'intéresse, c'est que vous avez précisé également que vous étiez capable de gérer des projets qui sont soumis à une forte réglementation. On entend souvent aussi, parmi les critiques ou les remarques, que ces nouvelles méthodes, alors vous avez parlé d'holacratie, de Scrum, des méthodes Spotify, on entend qu'elles seraient limitées dans ce contexte de réglementation très précise, très forte. Est-ce que vous avez trouvé des limites de ce point de vue-là ou pas du tout?
Non, moi j'en ai pas vu, j'en vois pas là comme ça. Je dis pas qu'il y en a pas, mais dans mon expérience, on a pu adresser des sujets... Enfin, que ce soit le sujet réglementaire ou risque ou sécurité, il n'est pas lié à la méthodo, il peut être éventuellement lié à la techno, mais en tout cas, pas du tout, on peut faire n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais dans le sens où il n'y a pas pas de limite, quoi. C'est pas lié à ça.
Je partage votre avis, mais je voulais votre pratique dans votre secteur qui est intéressant. J'ai la même compréhension sur le domaine télécom que je connais mieux. Et effectivement, sur la pharmaceutique aussi, le pharmaceutique, le secteur, également, on a des passages en agilité qui sont réussis, hein, et dont on a confirmation. Alors, peut-être, avant de rentrer sur le sujet des équipes et des facteurs clés de succès de ce type d'organisation, comprendre qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé d'une organisation, on va le dire de façon schématique, à la Spotify, à l'Holacracy. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça, la nécessité, qu'est-ce qui vous manquait finalement dans votre fonctionnement à la Spotify avec des guildes et des...
En fait, c'est pas quelque chose qui nous manquait par rapport à Spotify, c'est vraiment lié à l'évolution de notre et à notre histoire. Comme je le disais, à un moment, nous a confié en même temps plusieurs gros projets, et donc c'est à ce moment-là que la taille de la cellule a explosé. Et en fait, avec ces sujets qui étaient à la fois gros et à la fois stratégiques, ça nous a amené à nous... Il y a des questions qu'on s'était jamais posées, ou auxquelles on n'avait pas forcément eu besoin de répondre avec cette criticité-là. Du coup, il y avait des... avec toutes ces questions, des problèmes de positionnement. Un problème arrivé, et du coup, des questions très classiques du genre « Ah bah c'était à moi de le faire, c'est à qui de le faire, c'était à moi de le faire, pourquoi tu l'as fait, et c'était pas à moi de le faire, c'est à toi de le faire, mais non, enfin bref. » Et on s'en sortait pas. Et soit on arrivait donc à ces frictions, puisque on n'avait jamais dû se poser la question de savoir qui allait faire ça, donc soit des frictions, soit des blocages, les situations où les gens se disaient « Bon bah ça... je sais pas faire, je pose le stylo et je vais demander à la personne au-dessus ce que je dois faire. » Et du coup, on est arrivé à des goulots d'étranglement sur certains rôles, sur certaines fonctions, sur certaines personnes de l'organisation qui devaient à la fois, en plus de leur travail normal, entre guillemets, devaient travailler sur le lever des blocages, sur la réponse aux questions, et donc il en résultait des frictions, des blocages, et surtout on s'apercevait que les décisions n'étaient pas prises au bon niveau. Tout dépendait de une ou deux personnes clés dans l'organisation, et c'était pas du tout ni fluide, ni efficace. Donc c'est vraiment cette phase de forte croissance où on s'est dit, il y a trop de choses qui coincent, des choses qu'on arrivait très bien à faire à 30, là à 90, on n'y arrive pas. Et du coup, l'Holacracy, puisque c'est le choix qu'on a fait, a été présenté, proposé par un des membres de l'équipe lors d'un OA, un Open Agile Adoption, qui était un des rituels qu'on faisait une fois par an pour réunir toute la cellule et que chacun soit vraiment acteur, donc sous forme de marketplace. Et un des sujets de le marketplace était justement... sortir de ces... déjà, partager le constat de ces difficultés et essayer de trouver des solutions. Et dans ce cadre-là, donc, un des consultants a indiqué, a proposé le framework holacratique sur lequel on a commencé à réfléchir.
Alors, François Terrier, très intéressant. Donc vous passez à l'Holacracy suite à cette réunion et à cette suggestion qui émane des équipes, de l'équipe elle-même. Comment le reste des coéquipiers réagit? Comment démarre ce passage à l'Holacracy concrètement?
Alors il y a plusieurs choses. Vis-à-vis de l'ensemble de l'équipe, ça a été assez bien accueilli. Donc on n'a pas eu de blocage à ce niveau-là. Pas eu non plus de blocage ou d'interrogation par rapport à l'ensemble du reste de la DSI, puisque c'est un petit peu une bulle. Puis surtout, la façon dont on l'a adressé, mise en œuvre, on est adepte de la technique des petits pas. Donc ça n'a pas du tout été quelque chose, une révolution, un grand Big Bang. On ne s'est pas fait accompagner par des coachs externes, puisqu'on avait au sein de la cellule une dizaine d'agilistes qui se sont emparés du sujet. Et du coup, on a commencé par regarder un petit peu comment ça marchait, comment ça fonctionnait, quels avantages on pouvait en avoir. Et puis on a commencé avec une équipe. Donc on a créé un premier cercle, je suis agiliste, c'était plus facile. Et puis un deuxième, et puis un troisième. Et on s'est dit, ben oui, le modèle, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait généraliser. Et trois mois, quatre mois après, on a basculé toute l'organisation, donc la centaine de personnes, dans ce modèle holacratique.
Alors, avec votre expérience, on a envie de savoir quels sont les facteurs clés de succès, les difficultés majeures également de cette forme d'organisation.
Pour moi, avec le recul, ce qui a vraiment facilité son adoption, déjà, ça venait des équipes. C'est pas quelque chose que le management ou le pilotage a imposé ou décidé. C'est quelque chose qui est sorti des équipes, dont on a discuté avec tout le monde. L'autre chose qui me semble très très important, c'est toute notre histoire aussi agile. Vraiment l'agilité, les méthodes agiles, surtout Scrum, mais sont vraiment dans notre ADN et vraiment au cœur de nos préoccupations. Et Scrum, comme beaucoup de méthodologies agiles, est quelque chose de très cadré, de très ritualisé. Et on a toujours eu en tête l'intérêt de respecter une méthodologie, au moins au début by the book, après puis avoir les approches Shoari qui permettent de s'en extraire, mais on commence par une méthode, l'appliquer basiquement à la lettre, et si on est perdu, au moins on suit ce cadre-là.
Une référence, oui.
On a cette référence. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on a mis le pied dans l'holacratie, qui est elle aussi quelque chose de très ritualisé, avec des réunions de triage, de gouvernance, de stratégie. Les réunions de triage sont elles aussi très ritualisées. Et du coup, cette histoire et cette habitude de respecter un cadre de méthodologie, finalement, a facilité l'adoption d'un autre cadre.
Le terreau était favorable.
Tout à fait. Après, il ne faut pas se leurrer aussi. On a eu cette possibilité-là, qui a été aussi un facteur facilitant. C'est que la cellule, au moment où on l'a mis en place, était très fortement externalisée. Sur la centaine de personnes, il y avait très très peu d'internes. Et du coup, on a eu très peu de questions RH à adresser, puisque le consultant n'avait que peu d'impact, on n'était pas l'employeur du consultant, et donc ça a été aussi un facteur. Je sais que d'autres organisations, c'est des questions qui se surajoutent au passage à une organisation différente.
Ok, donc on voit que culturellement, le terreau était favorable, le fait que vous utilisiez des consultants qui provenaient de l'extérieur de l'entreprise a permis aussi de désamorcer un certain nombre de sujets RH. Sur les sujets sur lesquels vous avez travaillé, essayé d'optimiser votre fonctionnement, les difficultés que vous avez pu rencontrer, j'imagine que c'était pas un long fleuve tranquille malgré tout, de mettre en œuvre une nouvelle méthode avec une équipe qui par ailleurs est de taille significative aujourd'hui, donc quelles ont-elles été ces difficultés majeures ?
Alors je trouve que paradoxalement, les difficultés n'ont pas forcément eu lieu au moment de la mise en place, qui s'est faite de façon assez progressive, avec des gens qui étaient assez motivés et assez moteurs. Et en fait, les difficultés viennent plus de la vie de tous les jours. De conserver cette flamme de la nouveauté, la motivation, etc.
Ne pas tomber dans la routine,
de pas avoir holacratie comme on peut avoir piscine. Enfin, c'est ça. Quelque chose où on perd le sens, mais c'est comme pour tout, quelle que soit la méthodo. C'est pourquoi on fait les choses, pourquoi on se réunit tous les 15 jours pour faire une, ou toutes les semaines pour faire une réunion de triage. On a une, sur une équipe de 100, on a un turnover qui est pas monstrueux, mais qui est réel, comme dans toute équipe de développeurs qui peut exister aujourd'hui, étant donné l'état du marché sur ces métiers-là. Et du coup, il y a vraiment, il faut surtout pas sous-estimer l'entretien de cette flamme, parce qu'il y a des nouveaux arrivants, parce qu'il y a une personne qui change dans l'équipe, et puis on se dit que bon, bah, une personne, c'est bon, c'est pas grave. Et puis 6 mois après, il y en a une deuxième, puis une troisième, et puis une un an et demi, finalement, la moitié de l'équipe peut avoir changé. Et si on n'a pas fait l'effort ou la réflexion d'entretenir cette flamme et de toujours rabâcher, et toujours être vigilant sur... pas sur les écarts, faut pas, c'est pas une question d'écart ou quoi que ce soit, mais plutôt sur le mindset. Je dis d'écart parce que on n'est pas non plus un fonctionnement pur holacratique. On a plutôt adapté un certain nombre de choses, même si on s'en est pas non plus trop écarté. Mais oui, le sens de pourquoi on fait les choses, de pourquoi on se réunit, de l'intérêt qu'on y voit et de la culture, et c'est surtout la question de mindset, de positionnement, et ça oblige vraiment à pas être sur le qui-vive, faut pas non plus dramatiser, mais c'est vraiment vraiment se demander à chaque fois et remettre un euro dans la machine.
Et alors justement, comment vous faites pour avoir cette vue de côté, ce pas de côté, ce recul par rapport à votre pratique et à l'évolution de votre pratique? Est-ce que vous faites aider pour faire ça? Est-ce que vous le faites en interne avec une méthode particulière? Est-ce que vous faites des réunions spécifiques pour réfléchir à ça?
Typiquement, c'est on a créé un cercle holacratique, le cercle agile, où se réunissent tous les agilistes de la cellule, et la raison d'être du cercle, c'est d'être, et dans les missions de ce cercle, il y a également d'être les garants du fait que la cellule reste agile et holacratique. Donc on a en fait institutionnalisé le rôle de gardien du temple. Donc ces agilistes-là ont le rôle de titiller n'importe qui dans notre organisation pour lui dire là, c'est pas exactement en ligne, on comprend pas très bien ce que vous faites, et y compris sur des personnes chargées du pilotage, du management ou quoi que ce soit. Donc on a institutionnalisé ce rôle de garde-fou. Qui est complexe, parce que il faut aussi à la fois être au courant de tout ce qui se passe, de pourquoi ça se passe, faut amener les choses de façon
diplomatique.
c'est un effort permanent.
Très intéressant. Et alors, vous parliez du turnover et de l'arrivée immanquable de nouveaux talents dans l'équipe, dans l'organisation. J'imagine que pour eux, sauf à considérer qu'ils viennent d'une organisation qui pratique déjà ce type de framework et de méthodologie, c'est quand même un choc culturel, ou à minima une adaptation nécessaire. J'imagine aussi que vous devez travailler, alors ce que les anglo-saxons appellent l'onboarding, façon d'accueillir les gens de manière très spécifique pour que ce soit un succès. Est-ce que vous avez des méthodes particulières, des pratiques particulières en la matière ?
Sur ce sujet particulier, non, pas forcément, parce qu'il est rare quand même qu'on ait des équipes. On parie quand même sur l'environnement de la nouvelle personne qu'on accueille. Et on pense que le plus efficace, c'est pas de prendre quelqu'un dans une pièce pendant 3 heures le premier jour où il arrive pour lui expliquer l'holacratie. Mmh. Et que c'est plutôt par l'exemple, par l'accompagnement des autres personnes de l'équipe, ses pairs, que ça sera le plus efficace. Par contre, effectivement, C'est toujours un peu un pari, un recrutement, qu'il soit interne ou même en externe avec un consultant. Il va quand même être avec nous pendant un certain temps. Donc, on essaye de voir quand même s'il a une expérience dans ce genre d'organisation. Et donc, la grande force, enfin, le gros des troupes chez nous, c'est des développeurs. Et on essaye toujours de savoir si, un petit peu, à la fois s'ils ont eu des expériences dans ce type d'organisation, comment ils se positionnent par rapport à ça. Et on en fait aussi quand même, au-delà des critères purement techniques, de maîtrise des frameworks Symfony ou Angular, vraiment, est-ce qu'il va s'y retrouver ou on est sûr de le perdre et là, on peut éventuellement faire le choix d'avoir quelqu'un qui techniquement sera peut-être un peu moins bon, mais la technique, elle, ça prend toujours.
Oui.
Qui sera capable mindset, de s'adapter. Voilà, le mindset et sa capacité d'adaptation à ce genre d'organisation est quand même plus difficile.
Donc si je résume, la pratique, l'immersion le plus tôt possible, et puis avoir un mindset qui est capable d'accepter ce genre de contexte.
Tout à fait.
Et alors, les gens qui quittent votre groupe parce qu'ils ont une opportunité professionnelle intéressante à l'extérieur, j'imagine que bon, c'est connu quand même pour les développeurs, il y a quand même des possibilités d'évolution. Quand ils sont... habitués à fonctionner avec ce type de méthode, qui est quand même agréable parce que dans son périmètre de responsabilité, on a de l'autonomie, on peut faire preuve de créativité. Et effectivement, vous le disiez, la gouvernance clarifie les rôles, donc c'est quand même très agréable à pratiquer au quotidien. Est-ce qu'ils cherchent des organisations qui, elles aussi, sont organisées sur ce type de gouvernance, ou est-ce que finalement ils arrivent à retourner, je dirais, dans une organisation legacy, classique? Est-ce qu'il n'y a pas de frustration là-dessus? Vous avez eu des témoignages de ce type?
Assez peu. J'en ai eu en interne. Je sais que certains
internes... Oui, en interne aussi, oui.
Certains internes qui nous ont rejoints, puisqu'on les a... Une filiale, GERDEF, c'est une filiale d'Engie, donc la mobilité au sein du groupe est quelque chose d'assez classique. Et on sait que des personnes qui nous ont rejoints ont eu, pour certains, un petit peu de mal à s'habituer à quelque chose d'assez innovant, mais qui sont, comme vous le citez, je suis bien embêté parce que je sais que ce genre de choses, je suis pas sûr de le retrouver, et je fais à la fois, j'ai changé de poste, c'est un peu la règle, mais je me fais un petit peu de soucis parce que je ne vais pas le retrouver. Et clairement, c'est cette notion de... Il faut être de façon très transparente. On a aussi, nous, vu l'intérêt de ce genre d'organisation pour attirer et conserver les talents, qu'ils soient internes ou externes, parce qu'on est sur un... On est sur les mêmes technologies que les licornes du web. On fait du PHP avec des frameworks Symfony. Avec 60 développeurs Symfony, on est un des plus gros plateaux. Mais les autres gros plateaux Symfony, c'est Mythic, c'est Blablacar, c'est des sociétés comme ça. Et donc, quand un talent, qui sont encore une fois internes ou externes, cherche à... il a le choix entre Mythic, Blablacar ou GRDF, on part avec un certain handicap. Alors, le retour d'expérience que je peux faire aussi, c'est que même si on a un turnover qui est de l'ordre de entre 20-25%, quand on regarde un petit peu, donc déjà c'est pas quelque chose de trop élevé sur le marché, mais c'est surtout des gens qui s'en vont après quelques années, quoi. Mm-hmm. Donc là, après 7 ans au terme d'une expérience, on a très peu de gens qui nous quittent. Parce qu'ils s'y retrouvent pas, qu'ils comprennent pas, ou parce qu'ils trouvent que on ferait trop mal les choses.
Très bien, bravo. Êtes-vous les seuls dans l'entreprise à tenter l'holacratie ou des gouvernances d'autorité distribuées? GRDF, c'est quand même une structure imposante, hein. Je cite les chiffres, donc plus de 11 000 salariés, 11 millions de clients, la gestion de 200 000 km de réseau de gaz, près de 5 fois le tour de la Terre. Est-ce que l'holacratie a une chance de sortir de votre équipe d'une centaine de personnes? et de tenter de d'autres équipes au sein de GRDF.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que GRDF a fait le choix aussi de mettre l'entreprise responsabilisante au cœur de son projet d'entreprise pour les prochaines années qui viennent. L'autonomie, dans certaines décisions, la responsabilisation, c'est vraiment un changement de culture pour GRDF, qui est quand même une société plutôt avec un type de management plutôt assez classique, mais on voit un peu partout, et c'est quelque chose des expériences ou du management qui est beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus responsabilisant pour le salarié, et c'est quelque chose que la direction prône et veut vraiment développer. Donc là, il y a vraiment cette réflexion qui irrigue quand même toute notre entreprise. Après, sur l'utilisation très spécifique de ce framework d'organisation qu'est l'holacratie, je ne sais pas. Je sais qu'il y a d'autres initiatives au sein du groupe Engie, sur des tailles d'équipe encore plus conséquentes que la nôtre. Encore une fois, nous, on a ces 7 ans d'expérience agile, innovante, sur plein d'aspects. Je pense qu'on a un petit temps encore d'avance et on risque de le garder un petit peu avant, un petit peu encore pendant un moment. Dans le sens, enfin, ce temps d'avance, c'est vraiment sur la formalisation, sur l'utilisation d'un framework et de se dire, voilà, nous, maintenant, on n'essaye pas ou on ne sait pas une position. Voilà, on a cette organisation, ce framework, on l'utilise et on travaille dessus. Mais encore une fois, c'est ces réflexions irriguent toute l'entreprise. Donc peut-être dans quelques temps, quelques années, quelques mois peut-être, d'autres nous rejoindront.
François Terrier, merci beaucoup. Je pense que votre démarche pionnière va en inspirer beaucoup d'autres, hein, au sein de GRDF et au-delà, grâce entre autres à ce podcast et aux témoignages que vous faites. Encore merci pour cela. Merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.